de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Le premier ministre japonais reçoit le vaccin COVID-19 avant sa réunion avec Biden. L'Australie poursuivra le vaccin AstraZeneca COVID-19. La Suède suspend l'utilisation du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca. Le Programme alimentaire mondial a critiqué la hausse des prix en Birmanie après le coup d'État. Il n'y avait pas encore exhorté à l'évacuation des citoyens indonésiens de la Birmanie. Ubud, Sanur et Nusa Dua sont des exemples de tourisme en zone verte. Et le consulat général d'Indonésie à Kuching a discuté des possibilités de coopération touristique avec Sarawak. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. Le premier ministre japonais reçoit le vaccin COVID-19 avant sa réunion avec Biden. Le premier ministre japonais Yoshihide Suga a reçu la première dose du vaccin COVID-19 mardi en préparation d'une réunion avec le président américain Joe Biden le mois prochain. Suga est devenu le premier fonctionnaire du gouvernement japonais à recevoir le vaccin en public. Environ 80 à 90 fonctionnaires seront vaccinés avant de se rendre aux États-Unis au début du mois prochain. Suga sera le premier leader mondial à rencontrer Biden depuis qu'il est devenu président. Le Japon a commencé sa vaccination contre la COVID-19 le mois dernier avec une dose importée du vaccin Pfizer Inc. et BioNTech. Le premier ministre Suga a promis de fournir une dose suffisante aux 126 millions d'habitants du Japon d'ici juin avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo le 23 juillet. L'approvisionnement provient déjà des usines de Pfizer en Europe, mais devrait augmenter dans les mois à venir. L'Australie poursuivra le vaccin AstraZeneca COVID-19. L'Australie n'a pas l'intention d'arrêter d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca COVID-19, bien que plusieurs pays européens aient arrêté d'administrer le vaccin après avoir signalé d'éventuels effets secondaires graves. Le ministre australien des Finances, Josh Frydenberg, a déclaré que les régulateurs européens des médicaments et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont confirmé que le vaccin AstraZeneca PLC est efficace et sûr à utiliser. Frydenberg a déclaré mardi à Sky News, cité par Reuters. La majorité des 25 millions de personnes australiennes seront vaccinées avec le vaccin AstraZeneca et les autorités ont déjà reçu près de 54 millions de doses, dont 50 millions seront produites localement à partir de fin mars. L'Australie a lancé son programme national de vaccination le mois dernier et a commencé sa première vaccination avec le vaccin AstraZeneca la semaine dernière. La Suède suspend l'utilisation du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca. L'Agence suédoise de la santé a déclaré qu'elle avait suspendu l'utilisation du vaccin COVID-19 d'AstraZeneca comme mesure de précaution à la suite des rapports d'un certain nombre de pays d'Europe sur les effets secondaires du vaccin. Cela a été transmis par l'agence comme l'a rapporté Reuters mardi. L'Allemagne, la France et l'Italie ont annoncé lundi qu'ils arrêtaient d'administrer le vaccin d'AstraZeneca COVID-19 après que plusieurs pays aient signalé d'éventuels effets secondaires graves, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les rapports n'étaient pas encore prouvés. Des voisins, à savoir la Suède nordique, le Danemark et la Norvège, ont signalé des cas d'hémorragie, des caillots sanguins et de faibles numérations plaquettaires après l'inoculation du vaccin d'AstraZeneca. L'Agence suédoise des produits médicaux a déclaré lundi qu'elle avait enregistré 10 cas de caillots sanguins et un cas de faible taux de plaquettes chez les personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca. Le Programme alimentaire mondial a critiqué la hausse des prix en Birmanie après le coup d'État. Le Programme alimentaire mondial, PAM, sous l'égide des Nations unies, déclare que l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des carburants en Birmanie depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021 risque de réduire la capacité des familles pauvres à subvenir à leurs besoins alimentaires. Le PAM a déclaré mardi que les prix de l'huile de palme ont augmenté de 20%, plus élevé à plusieurs endroits autour de la ville principale de Yangon depuis début février et que les prix du riz ont augmenté de 4% dans les régions de Yangon et de Mandalay depuis fin février. Dans certaines parties de l'état de Kachin du Nord, les prix du riz ont augmenté de 35%, tandis que les prix de l'huile de kisson et des haricots ont fortement augmenté dans certaines parties de l'ouest de l'état de Rakhine. Directeur du PAM en Birmanie, le directeur du PAM en Birmanie, Stephen Anderson, a déclaré que les signes étaient inquiétants. Le PAM a aidé à subvenir plus de 360 000 personnes en Birmanie, la plupart déplacées par le conflit au cours de la dernière décennie. Il n'avait pas encore exhorté à l'évacuation des citoyens indonésiens de la Birmanie. Le ministère indonésien des Affaires étrangères considère qu'il n'est pas encore urgent d'évacuer les citoyens indonésiens de la Birmanie après avoir examiné la dernière situation liée aux manifestations anti-coup d'État et à l'imposition de la loi martiale dans plusieurs régions du pays. Telle était la déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères mardi. Dans la déclaration, il a été dit sur la base des résultats d'une réunion en ligne entre le ministère indonésien des Affaires étrangères, l'ambassade indonésienne à Yangon et des citoyens indonésiens vivant en Birmanie. Des informations ont été obtenues selon lesquelles la condition des citoyens indonésiens en le pays était relativement sûre et qu'aucune attaque directe n'avait été lancée contre des citoyens indonésiens. Néanmoins, il est conseillé aux citoyens indonésiens qui n'ont pas de besoins essentiels en Birmanie d'envisager de retourner en Indonésie via des vols de secours ou bien vols détachés, qui sont encore disponibles, à savoir Singapore Airlines et Myanmar Airlines. Actuellement, il est enregistré qu'environ 50 citoyens indonésiens sont revenus en utilisant ce vol spécial. L'ambassade d'Indonésie à Yangon a préparé l'école indonésienne de Yangon comme abri temporaire pour les citoyens indonésiens. Le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade d'Indonésie aideront également à organiser des vols charter si cette option est effectivement demandée par les citoyens indonésiens. Ubud, Sanur et Nusa Dua sont des exemples de tourisme en zone verte. Le président Joko Widodo a déclaré que les trois zones touristiques de la province de Bali, à savoir Ubud, Sanur et Nusa Dua, deviendraient des zones touristiques pilotes des zones vertes, à savoir des destinations touristiques sûres pour les touristes nationaux et les touristes étrangers de la pandémie COVID-19. Cela a été dit par le président Joko Widodo après avoir examiné la vaccination COVID-19 pour les agents des services communautaires, le chef religieux et traditionnel et les personnes âgées à Puriubud Gianyar Bali mardi. En établissant trois zones vertes pour les destinations touristiques à Bali, les touristes nationaux et étrangers se sentent en sécurité en vacances à Bali. D'un autre côté, l'industrie du tourisme et les habitants de Bali seront en sécurité et à l'aise car les touristes qui viennent sont exempts de COVID-19. Le président Joko Widodo a ajouté que si les trois destinations touristiques vertes ou sans COVID-19 ont été ouvertes aux touristes, elles continueront d'être surveillées et évaluées chaque semaine. Le consulat général de l'Indonésie à Kuching a discuté des possibilités de coopération touristique avec Sarawak. Le consulat général de la République d'Indonésie Kajeri à Kuching en Malaisie avec le ministère des Tourismes, des Arts et de la Culture du Sarawak, la Malaisie, ont discuté d'un certain nombre de collaborations entre les deux pays, notamment le tourisme et la culture. C'est ce qu'a déclaré le consul général indonésien à Kuching, Yoni Tri Prayitno, comme l'a rapporté Antara mardi à Kuching. Il a expliqué qu'à la réunion, le secrétaire permanent du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture de Sarawak, en Malaisie, M. Yi a indiqué le projet du gouvernement du Sarawak de placer l'Office du commerce et du tourisme de Sarawak à Pontianak, dans l'ouest du Kalimantan. Sa partie espère que cela pourrait être réalisé après la période de COVID-19. Il s'agit d'accroître et de faciliter la coopération commerciale et touristique entre les deux régions. Lors de la réunion qui a débattu de la conception et des possibilités de coopération touristique et culturelle entre Sarawak et Kalimantan occidental, les deux parties ont également exploré le potentiel d'autres régions de l'Indonésie. Ils ont convenu de planifier des activités conjointes au niveau international, à la fois dans les régions de Sarawak et de Kalimantan occidental, comme tour international à vélo. Mon cher auditeur, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le commentaire d'aujourd'hui. Intitulé « La Birmanie, une leçon pour favoriser la démocratie ». Vous êtes avec moi Audrey. Sur Jolitard, les rêves de paix et de démocratie en Birmanie ne sont pas encore devenus réalité. Après le coup d'état de la junte militaire le 1er février, les civils ont continué de faire des victimes. Le pays n'a pas encore trouvé de solution à la prise de pouvoir par l'armée. Après l'incendie d'un certain nombre d'usines qui constituaient un investissement chinois, il semble que l'armée avait la possibilité d'imposer l'état d'urgence à plusieurs endroits. Depuis dimanche dernier, civils ont déclaré l'état d'urgence. L'agence de presse AFP a vérifié que lors des manifestations de dimanche et lundi, des dizaines de personnes, dont des femmes, étaient mortes des suites des tirs militaires. Apparemment, les manifestants ont incendié les usines pour avoir accusé la Chine de soutenir l'armée birmane. Il est possible que l'incendie criminel et les accusations perturbent le gouvernement de Pékin. Auparavant, le gouvernement chinois avait déclaré ne pas s'ingérer dans la crise politique et sociale dans son pays voisin. Contrairement aux États-Unis et à plusieurs pays occidentaux, la Chine considère ce qui se passe en Birmanie comme une question purement intérieure. Ceci malgré le fait que le Conseil de sécurité de l'ONU ait critiqué la violence perpétrée par l'armée. D'un autre côté, la condamnation et les sanctions imposées par les États-Unis et plusieurs autres pays aux responsables militaires de la Birmanie n'ont toujours pas ébranlé l'ASEAN et ses pays membres à répondre à la crise en Birmanie. L'ASEAN jusqu'à présent reste obéissante à l'engagement de non-ingérence dans les affaires intérieures de ses membres. Cela peut être bien mettre les militaires à l'aise. La Birmanie est le premier pays à devenir membre de l'ASEAN car l'Association des pays d'Asie du Sud-Est considère que la Birmanie est devenue démocratique. Cette situation devrait inciter l'armée à continuer de commettre des actes de violence contre les manifestants qui soutiennent Aung San Suu Kyi. Pendant ce temps, Aung San Suu Kyi n'a pas pu agir parce qu'elle était en détention. Le pays, qui a commencé à gagner en appréciation grâce à la réalisation de la démocratie il y a quelque temps, fait maintenant l'objet d'attention et de critiques en raison de la violence des militaires enfonçant son pouvoir. Pour ces pays voisins, ce qui s'est passé en Birmanie peut certainement être une matière à étudier et à réfléchir sur la manière de maintenir la démocratie en croissance, ainsi que sur les mesures à prendre pour que les gens vivent en paix. Bon, cher Jolitard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 mars 1957, accident d'avion Douglas C-47. Un avion Douglas C-47 nommé Gunung Pinatubo s'est écrasé sur les pentes du mont Manunggal à Cebu aux Philippines, tuant le 7e président des Philippines, Ramon Magsaysay, et 24 autres passagers. Plusieurs responsables du gouvernement et de l'armée philippine, ainsi que des journalistes, figuraient également parmi les personnes tuées. Un journaliste du Philippine Herald, Nestor Mata, a été le seul survivant de l'accident. Au moment de sa mort, le président Magsaysay, un nationaliste, était très populaire et devait facilement remporter une réélection lors de l'élection présidentielle de novembre. L'autre information est sur le Mont Agung a éclaté le 17 mars 1963. L'éruption du Mont Agung en 1963 a choqué toute l'île de Dieu, laissant même l'impact le plus ressenti de l'histoire. À cette époque, l'activité de montagne la plus élevée de Bali a commencé à augmenter depuis le début de l'année et a atteint son apogée le 17 mars 1963. Ce jour-là, le Mont Agung a éjecté des cendres volcaniques dans les airs jusqu'à 10 km de haut. C'est le pic de l'éruption, plus de 1000 sont morts, sans compter les blessés ainsi que les maisons, les bétails et les plantes qui ont été incendiées. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 mars 1969. Golda Meir est devenue la première femme à devenir première ministre d'Israël. Du 17 mars 1969 au 3 juin 1974, Golda Meir est devenue la première femme à occuper le poste de première ministre d'Israël. Auparavant, elle a été ministre du Travail, ministre des Affaires étrangères. Golda Meir est connue comme la femme de fer dans la politique israélienne. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Hey, sahabatku, apa kabarmu? Kita kecil bersama di sekolah itu. Sahabatku, ingatkah kamu? Aku tahu semua sejarah hidupmu. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingat.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, Indonésie-Singapour établissent la coopération des trois ponts. Les gouvernements indonésiens et singapouriens ont continué de renforcer leur coopération économique bilatérale à travers de la coopération des trois ponts. Il comprend le pont numérique, le pont d'infrastructure et le pont de Travel Bubble. Travel Bubble est l'ouverture d'une zone frontière qui permet aux citoyens de voyager à travers les pays à condition de ne pas dépasser la zone prédéterminée. Outre le resserrement des relations bilatérales, la coopération a également renforcé l'existence des deux pays dans l'ASEAN et au-delà. Cela a été déclaré vendredi par le ministre de la coordination économique Erlangga Hartarto. Le ministre Erlangga Hartarto a déclaré que le pont numérique Indonésie-Singapour pouvait être réalisé avec l'existence de Batam comme centre de développement de centres de données et centre de développement de l'industrie numérique en Indonésie. Auparavant, le 2 mars 2021, le gouvernement indonésien a inauguré de la zone économique spéciale du parc numérique Nongsa à Batam. La zone économique spéciale du parc numérique Nongsa devait être un point d'entrée pour les entreprises de la technologie informatique internationale de Singapour et de nombreux autres pays, ainsi que pour économiser les devises indonésiennes dans le commerce numérique pour environ 20 à 30 billions par an avec la plus grande contribution des secteurs du centre de données et de l'éducation internationale. Ensuite, le pont d'infrastructure commencera avec le développement du pont Batam Bintan sur 6,4 km en 2022. Plus tard, le pont Batam Bintan sera divisé en trois plans, à savoir les routes de l'île de Batam, de l'île de Tanjung Sawu et de l'île de Bintan. Erlangga a déclaré que le pont faciliterait les hommes d'affaires de Bintan pour envoyer les produits agricoles à Batam qui sont exportés vers Singapour ou d'autres pays. En outre, le pont Batam-Bintan devrait augmenter la connectivité de Bintan et Batam à Singapour et vice-versa. Pendant ce temps, le pont de Travel Bubble vise à stimuler le secteur du tourisme avec Bintan comme l'une des destinations touristiques de Singapour en Indonésie. À cet égard, l'Indonésie et Singapour ont convenu de former une équipe pour discuter de Travel Bubble entre Singapour et l'Indonésie. Travel Bubble commencera par un accord d'arrangement de voyage entre Singapour et les zones de Batam, Bintan, Karimun pour les hommes d'affaires et les touristes. Erlangga Hartarto a ajouté, avec l'arrangement de voyage, les hommes d'affaires et les touristes seront autorisés à voyager librement autour de Batam, Bintan, Karimun, Singapour et vice-versa en se conformant au protocole de santé strict. La coopération a été discutée lors d'une réunion virtuelle du ministre Erlangga Hartarto, du vice-premier ministre singapourien Heng Swee Keat, de l'ambassadeur de Singapour pour l'Indonésie Anil Kumar Nayar et de l'ambassadeur d'Indonésie à Singapour Suryo Pratomo vendredi. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Hidupku tak mampu ku ngertilah bahwa ku begitu mendambamu. Kau yang terindah untuk diriku. Kau bahwa ku mencintaimu. Mengertilah bahwa ku merindukanmu. Tahukah kau bahwa menyayangimu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Nous continuons notre programme avec le magazine culturel ayant pour titre Le village des Sapit. Le Mont Rinjani sur l'île de Lombok donne beaucoup de charme à la beauté naturelle. L'une des zones qui offre la beauté naturelle du Mont Rinjani est le village de Sapit. Ce village est situé dans le district de Suela, dans la région de l'est de Lombok, en province de Nusa Tenggara Ouest. Comme la plupart des villages dans les montagnes en général, le village Sapit, qui est l'un des plus anciens villages de l'est de Lombok, offre beaucoup de beauté naturelle. Cependant, spécifiquement pour ce village le plus ancien, il y a peu de différence avec les autres villages. Le village est situé dans la région de Mont Rinjani, promettant une belle vue qui plaît aux yeux de ses visiteurs. Situé au-dessus d'une altitude de plus de 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut voir un magnifique lever de soleil panoramique. Depuis longtemps, les touristes ont fait du village de Sapit comme endroit pour profiter du lever du soleil. La beauté du soleil du matin est généralement utilisée comme attraction touristique pour commencer la nouvelle année après avoir profité d'une fête de fin d'année à Lombok. Nous pouvons également visiter la colline japonaise de Pal, l'un des endroits à visiter si vous êtes au village de Sapit. « Il a été nommé la colonne japonaise de Pâle parce qu'il y avait Pâle au pilier de pierre de marqueur de l'ère de l'occupation japonaise. Malheureusement, il y a quelque temps, le Pâle a été détruit en raison d'une mauvaise perception qui est considérée comme un marqueur de l'emplacement de stockage des trésors du patrimoine japonais. Même si après son démantèlement, aucun actif n'a été trouvé. La colline japonaise de Pâle est généralement bondée de touristes pendant l'été pour voir le lever et le coucher du soleil. L'emplacement convient aux touristes qui aiment le camping car il y a un terrain de camping de 2,5 hectares. Vous pouvez profiter du lever et du coucher du soleil sur la colline. Sapit présente beaucoup de beauté naturelle. Autour de Sapit, il y a aussi les bains Le Mort, les jardins botaniques Le Mort et les sources chaudes de Sebao. Tous sont équipés pour répondre aux besoins touristiques des visiteurs. Par exemple, les sources chaudes de Sebao sont souvent visitées par les touristes qui souhaitent prendre un bain de soufre chaud. Pour les touristes qui souhaitent se rendre au village de Sapit, plusieurs homestays sont disponibles. Même si vous voyagez, vous devez toujours suivre des protocoles de santé pour que vos vacances soient plus saines et plus confortables. Pour atteindre le village de Sapit, il peut être atteint en moins de 2 heures de la ville de Mataram, la capitale de la province de Nusa Tenggara Occidentale, par transport terrestre. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita real. balita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey, le sujet d'aujourd'hui est Berapa kali, en français, combien de fois. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Berapa kali, en français, combien de fois. Cette conversation se déroule entre Kevin et Boris. Boris est le nouveau voisin de Kevin. Boris voulait savoir combien de fois par semaine le service de nettoyage transportait les ordures résidentielles. Bonne écoute.
Kevin, berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah?
3 kali seminggu.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa kali. En français, combien de fois? Je vais vous prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Berapa kali. En français, combien de fois? Seminggu. En français, par semaine. Petugas kebersihan, en français les nettoyeurs. Mengangkut, ramasser. Sampah, les ordures. Berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah? En français, combien de fois les nettoyeurs ramassent les ordures? Tiga kali, trois fois. Tiga kali seminggu, trois fois par semaine. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu des questions. Berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah? En français, combien de fois par semaine les nettoyeurs ramassent-ils les ordures? Dans cette question, la phrase berapa kali, combien de fois, utilisée pour demander la fréquence à laquelle quelqu'un fait quelque chose pendant une certaine période. Par exemple, berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah? En français, combien de fois par semaine les nettoyeurs ramassent-ils les ordures? Pour fournir des informations sur la fréquence à laquelle quelqu'un fait quelque chose, vous pouvez répondre comme Kevin l'a dit dans la conversation. Voici un autre exemple de conversation demandant et fournissant des informations sur la fréquence à laquelle quelqu'un fait quelque chose. Boris, berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah? En français, combien de fois par semaine les nettoyeurs ramassent-ils les ordures? Kevin, 3 kali seminggu. En français, 3 fois par semaine. Boris, berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah? Berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah? En français, combien de fois par semaine les nettoyeurs ramassent-ils les ordures? Kevin, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. En français, 2 fois par semaine. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kevin, berapa kali seminggu petugas kebersihan mengangkut sampah?
3 kali seminggu.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 de 5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et maintenant je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson de Java occidental intitulée Kalangkang. Chers auditeurs, Kalangkang de Sundanese qui signifie « ombre ». Les paroles de la chanson Kalangkang racontent la romance d'un couple. Les deux s'aiment et se partagent un sentiment de bonheur. La beauté de la relation était initialement imaginaire, mais est devenue plus tard réalité. Les paroles décrivent également « si vous aimez, vous devez rechercher l'amour pour y parvenir ». La chanson Kalangkang a été créée par Nano S. Cette chanson a été présentée dans l'album Kalangkang, qui a été publié en 1988 et popularisé par Nining Meida. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Java occidental intitulée Kalangkang, chantée par Nining Meida. Bonne écoute.
Thank you. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.